Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
L'écologie populaire commence par l'éducation des plus jeunes. Mais pour bien les guider, il faut de bons formateurs. Et c'est la raison pour laquelle la Ligue de l'enseignement propose des ateliers de formation à destination des animatrices et animateurs de centres de loisirs de Vendée. C'est au cœur de La Roche-sur-Yon, dans le quartier Pyramide, entre deux barres d'immeubles et le cimetière, que se trouve un jardin pas comme les autres. Une sorte de terrain expérimental idéal pour apprendre en compagnie de Loïc Sikalak, formateur pour la FOL 85. Il a d'ailleurs sa définition de ce qu'est pour lui l'écologie populaire.
Ben pour moi, l'écologie, c'est forcément populaire, parce que c'est quelque chose qui doit être pour toutes et pour tous. Et donc forcément... Être accessible à toutes et à tous. Et donc une écologie populaire, c'est une écologie qui ne va pas s'appuyer sur des outils trop complexes, coûteux, et puis des investissements aussi. Voilà, il faut que ce soit toujours simple, accessible, pas très cher.
Qu'est-ce que tu proposes pendant cette formation aujourd'hui ?
Une mise un peu en pratique de ça, avec donc un accompagnement d'animateurs, d'animatrices sur la création de projets de jardins éducatifs. Des jardins en fait, qui puissent être mis en place un petit peu partout. Sensibiliser à l'écologie dans des espaces qui accueillent des enfants. Plutôt que d'essayer d'emmener des enfants vers des jardins, on va créer des jardins dans des espaces qui accueillent des enfants pour recréer du lien entre, en gros, la production végétale et tout ce qu'on peut trouver de bon à manger dans les plantes et les enfants.
Pourquoi tu nous as emmenés ici spécifiquement pour faire cette formation ?
Alors, pourquoi on est à Goly ? C'est parce que Goly, c'est le jardin où on a mis en place tout le fruit de nos retours d'expérience en termes de jardinage éducatif, en fait. Donc du jardin en espace éducatif, c'est-à-dire un jardin qui n'est pas conçu pour la production, mais qui est au service d'objectifs éducatifs.
Comment il est pensé, ce jardin, justement ?
Alors, ce jardin, il est pensé complètement à l'inverse d'un jardin potager classique, c'est-à-dire qu'on va laisser une très grande place à des plantes vivaces qui vont revenir chaque année et qui donc vont reproduire chaque année de la nourriture. On va continuer de cultiver des légumes annuels, donc il y aura bien du poireau, des petits pois, mais dans une bien moindre mesure en termes d'espace, parce que on a moins de temps à y passer, on peut moins soigner ces plantes annuelles là qui sont un petit peu difficiles et exigeantes. Donc on va plutôt s'appuyer sur des plantes pérennes, durables.
Donc en gros, vous avez une grande période de récolte, vous avez un truc qui revient tous les ans, vous avez un truc qui est incroyable, c'est du poireau perpétuel, c'est du poireau, il y a poireau dedans. Alors que faire des poireaux, mais qu'est-ce que c'est chiant de faire des poireaux ? Il faut faire des petits semis, il faut les arroser souvent, ils sont trop proches les uns des autres, il faut les repiquer. C'est un peu la plante type, c'est chouette en août de la replanter dans des petits trous. Mais les enfants, comment faut-il ? Ils foutent de la terre partout quand ils sont dans un jardin. Donc vous allez toujours vous retrouver avec plein de grains de terre à l'intérieur des poireaux. Les poireaux sont dégueulasses. Je sais pas si vous voyez, c'est que quand on achète des poireaux, ils sont propres en général et tout ça. Mais là, il y a de la terre. On passe 15 ans à les nettoyer. C'est insupportable. Le poireau perpétuel, c'est une touffe comme de la ciboulette en plus gros.
Comment tu arrives à rendre le côté ludique du jardin ?
C'est un côté très pratique, très concret. On va te faire confiance à toi, petit enfant de 3, 4 ans, 5 ans. On va te mettre dans les mains un outil. On va te prêter une tondeuse. Peut-être que tu n'as jamais utilisé de tondeuse et tu te dis wow, c'est la première fois que je me sers d'une tondeuse, c'est trop bien. Donc on a une tondeuse qui va être adaptée, bien sûr. On va accompagner les enfants. On ne va pas les laisser avec la tondeuse comme ça. Et donc ça, ça va donner du fun, un petit peu de l'intérêt. Et surtout, 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 comme on a des vivaces qui sont en place, on va avoir une production tout au long de l'année. Et donc, c'est pas un jardin qui pourrait peut-être produire à un moment. C'est à chaque fois qu'on voit un jardin, il y a des choses à manger dans le jardin, il y a des choses à sentir dans le jardin, il y a des choses à goûter dans le jardin. Donc, il y a plein de choses. Même là, on est en plein mois de décembre, on peut ramasser des radis noirs. Alors, vous allez me dire, c'est pas jojo les radis noirs. Quand on l'a ramassé soi-même, qu'on l'a coupé en tranches et qu'on l'a goûté, c'est cool. L'idée, c'est que ce soit concret et qu'il soit dans l'action.
Qu'est-ce que sont venus chercher les animateurs et animatrices qui sont venus te voir pour cette formation, pour cette journée spéciale ?
Des astuces, du concret. Ils veulent mettre en œuvre ou ils ont déjà mis en œuvre des jardins qui n'ont pas fonctionné ou qui ont mal fonctionné. Et donc, ils viennent prendre des astuces qui vont fonctionner durablement dans leur jardin.
Je vais avoir besoin de plusieurs désherbeurs qui vont faire ça de manière chirurgicale. Donc on a deux zones, on va avoir un groupe de quatre qui va désherber les framboisiers. Ils sont faciles à reconnaître les framboisiers, donc à chaque fois on repère les framboisiers, les jeunes tiges qui poussent à ras du sol et puis les tiges qui sont un peu plus vieilles. On part d'autour des tiges et au fur et à mesure on s'éloigne. Ok ? Et après il y aura un autre travail ici. Ici il y a des plantes, il faut tout désherber Et à chaque fois qu'il y a des petits bâtons comme ça, bah, ça indique normalement une plante au milieu. Donc il faut vérifier dans quel état est la plante.
Le truc est partagé par tout le monde. Il y a des structures qui ont déjà des jardins, d'autres qui n'en ont pas. Mais ce qui est partagé par toutes les participantes et tous les participants, c'est on veut des jardins durables. Et donc moi, je vais leur donner des astuces d'approvisionnement en plantes, quel type de plantes on va mettre, comment on va choisir nos plantes, et leur faire en fait retourner la logique de dire tu choisis tes plantes en fonction de tes objectifs et pas l'inverse. T'essayes pas de faire pousser des tomates dans une école alors qu'en fait tu vas pas être là en juillet-août et que du coup tes tomates elles vont mourir et ça n'a pas de sens. En fait, il vaut mieux faire des patates que tu récolteras fin juin et voilà.
On parle d'écologie populaire, toi tu parles beaucoup d'éducation populaire.
Bah c'est un peu à l'image du temps qu'on vit là maintenant, c'est que je peux prendre le temps de parler avec toi parce que bah, j'ai donné des consignes au groupe de participantes et ils et elles font dans le jardin concrètement, des gestes de jardinage. Voilà ce que j'entends par éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va... Certes, on a passé la matinée en salle, on a expliqué des concepts, mais il y a un moment, je leur ai juste dit, bah, choisissez une plante. Selon vous, quelle plante serait intéressante pour votre jardin? Et après, bah, ils prennent des bouquins, ils se les approprient, et comme ça, bah, ils font leur chemin. En fait, j'ai autant envie de leur montrer que moi, j'ai plein de connaissances, que leur vie de leur montrer qu'eux, ils sont plein de connaissances aussi, qu'ils ont plein de compétences, et qu'ils ont tout ce qu'il faut pour démarrer un jardin.
Je vois que vous mettez les mains à la pâte. Qu'est-ce que vous faites là?
On met le broyat sur la terre pour laisser sécher en fait. Et après on pourra faire les plantations sans même avoir désherbé en fait.
Et vous l'avez déjà fait habituellement avant de faire cette formation?
Jamais. Je suis pas du tout douée en jardinage à la base. Voilà.
Alors là, vous êtes vraiment bien tombée là, pour cette formation. Vous êtes venue chercher quoi spécifiquement ici?
Eh ben, de quoi animer un atelier justement avec des petits et des grands. Et puis c'était un petit truc qui me tenait à cœur parce que j'avais envie, mais je ne savais pas par où commencer, donc du coup on essaye de mettre ça en place.
Alors moi je suis en co-direction, donc je fais de l'animation plus de la direction, et c'est vrai qu'on a un jardin en fait en commun avec l'école. Ce jardin, on n'a pas trop de règles dessus, chacun l'utilise, mais en fait voilà, moi je me dis que dans l'objectif ça serait peut-être aussi de peut-être écrire quelque chose avec l'école pour que ça soit bien établi, et puis de l'exploiter un peu plus, parce que bon, là pour l'instant il tombe un peu en ruine. Je me rends compte aussi qu'on peut faire plein de choses. Le jardin c'est aussi des expériences, mais il y a aussi des livres qui racontent les plantes, tout ça. Donc ça peut être amené sur différentes activités en fait, que ce soit par des jeux, par de la cuisine. Enfin, c'est surtout de travailler dehors en fait que je recherche en fait. Avec les enfants.
Ils sont attentifs et là, bah, y a qu'à voir, ça fait 5 minutes qu'on papote et puis bah, y a une dame qui est venue, elle s'est rendue compte que j'étais pas très disponible et je suis sûr qu'elle va aller trouver ses réponses avec les autres participants. Parce que si je suis trop le sachant, si je suis trop le professeur, à la fin de la journée, tout le monde a le sourire. Mercredi prochain, ils sont dans leur jardin, elles sont dans leur jardin et elles se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il m'avait dit Loïc ? Mais je me sens pas capable, en fait, lui il pourrait, il faudrait que je l'appelle, il pourrait me dire ce qu'il faut que je fasse. » Non, moi mon but c'est qu'à la fin de la journée, toutes et tous se sentent capables de faire et en capacité d'agir et de faire un jardin. En se ratant, bien sûr. Mais moi aussi, je me rate tout le temps quand je jardine. Donc à un moment, c'est juste, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut, c'est l'envie d'y aller. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est un moment pour stimuler l'envie d'y aller.
Quels sont les axes de travail qui nous restent encore à accomplir?
Pour moi, le principal, c'est la justice sociale, une dimension en fait autour de solutions qui soient accessibles. Si on fait une écologie qui vient d'en haut avec des gens qui ont beaucoup de moyens, on va avoir un discours qui va être très yaka, faucon, et puis bah, il suffit de mettre en place des stratégies, mais souvent qui impliquent des euros, qui impliquent des achats, de la logistique complexe. Il faut que ce soit simple. On a une participante aujourd'hui qui nous dit « Moi, j'ai du goudron dans ma cour, comment je fais ?» Eh bah, bien, elle va prendre des sacs de terreau, elle va les mettre à l'envers, elle va percer des trous dedans, elle va mettre des plantes et ça va faire des plantes qui vont pousser. Et ça, c'est un atelier qu'on avait fait ici, dans le quartier des Pyramides. Ma collègue avait animé ça et c'était super, quoi. Le jardissac, les gens étaient là « Ah bah oui, mais moi, j'ai qu'une terrasse. » Bah, pas de problème, on a un jardissac, on vous propose une technique qui est accessible. Pour moi, l'écologie populaire aujourd'hui, ce qui lui manque, ça, c'est cette dimension de rendre accessible à moindre coût. Et puis aussi, on va pas parler de la biodiversité d'espace où les gens ne se rendent jamais. On va parler de la biodiversité d'ici, du quartier, ce qu'on peut trouver à proximité, le papillon qu'on peut faire venir sur sa terrasse, juste en mettant 3 graines dans un sac de terreau, quoi.
En somme, des gestes simples que les enfants pourront apprendre à leur tour dans les différents centres de loisirs de Vendée. Pour une écologie populaire efficace, Loïc nous parlait d'une meilleure justice sociale. Et pour en savoir plus sur la réalité du terrain, laissons parler la science en compagnie de Jean-Baptiste Combi, maître de conférences en sociologie à l'Université de Nantes. Il a mené une enquête qualitative et quantitative sur les liens entre mode de vie, classe sociale et environnement. Il en ressort un essai sorti aux éditions Raison d'agir. Écolo, mais pas trop. Jean-Baptiste Combi, bonjour.
Bonjour.
Avant de se lancer évidemment dans le constat, parlons de méthodologie si vous le voulez bien, car on est toujours curieux de savoir comment fonctionne une enquête de ce genre en sociologie. Quelle était l'idée de départ et la méthode employée pour réaliser cette enquête ?
Alors l'idée de départ sur l'enquête, en tout cas celle que j'ai pilotée, était de mieux saisir la manière dont les individus se positionnent sur les questions environnementales, c'est-à-dire à la fois comment ils les appréhendent, comment ils y pensent, ils en parlent, et comment ils se forgent des points de vue ou pas sur ces questions-là, mais également comment ces points de vue s'articulent avec des rapports pratiques à ces questions-là, ça va être les pratiques de consommation, ça va être les pratiques de mobilité, de logement, aussi des pratiques de rapport à la nature, enfin diverses choses. Et donc on a procédé essentiellement, enfin le matériel central, c'est des entretiens qualitatifs qui peuvent durer de 1 heure à plus de 3-4 heures, où on revient sur l'histoire de vie des personnes, mais aussi sur leur mode de vie, leur manière d'organiser le quotidien, mais aussi leur positionnement politique. Alors, c'est des entretiens qui sont menés selon des méthodes propres aux sciences sociales, avec un échantillonnage, enfin en l'occurrence c'est 84 entretiens. On a aussi essayer de varier les profils en termes de niveau de diplôme, niveau de revenu, lieu d'habitation, forme de politisation.
Combien de temps a duré cette enquête justement ?
En fait, l'enquête, moi, c'est un travail que je mène depuis ma thèse, en fait, depuis 2008. J'avais entamé donc à la fin des années 2000. Et puis on a eu un financement de l'Agence nationale de la recherche, l'Agence nationale de la recherche, financement qui s'est étalé grosso modo de 2011 à 2017-2018, pour faire simple. Voilà. Donc ça a duré plusieurs années, avec plusieurs vagues d'entretiens, parce que ces entretiens, on les a aussi menés en fonction de l'avancée, la progression des connaissances sur les différents groupes sociaux qu'on investiguait. Donc il y a une articulation toujours du travail empirique avec le travail théorique, les deux se nourrissant mutuellement.
Alors quel est le constat de cette enquête maintenant que le livre est sorti ? Écolo, mais pas trop, ça en dit un peu, sans tout dire à la fois. Quelles sont les constatations que vous ressortez de cette enquête que vous le disiez, vous avez tenue sur plusieurs années ?
Pour repartir du titre, on peut dire que le premier constat, c'est que dans la grande majorité des groupes sociaux, il est de bon ton d'être écolo.
Ah oui.
Alors ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. C'était déjà le cas dans les années 1990 en fait. Voilà, même si les choses, en apparence d'ailleurs, peuvent paraître bouger un petit peu, mais en fait, voilà, de manière générale, il est de bon ton d'être écolo, mais pas trop. C'est-à-dire que, en fait, les individus, les enquêtés, là aussi, quel que soit leur milieu social, se heurtent à l'inertie des modes de vie, qui est l'inertie des structures sociales aussi, qui est l'inertie du monde social. Simplement, ensuite, une fois qu'on a dit ça, on voit que cette manière de se heurter à l'inertie et de ne pas être trop écolo prend des résonances et des formes très différentes selon où on se situe dans le monde social, notamment entre le haut de l'espace social et le bas de l'espace social. Et un des arguments centraux du livre que je développe, que je documente empiriquement, c'est de montrer que l'écologie telle qu'elle est traitée aujourd'hui dans les pays comme la France, donc ce que j'appelle l'écologie dominante, qui est une écologie qui est mise en forme et codifiée par et pour les classes dominantes, elle est d'autant plus dominante, cette écologie, qu'elle vient créer plutôt de la convergence en haut de l'espace social, entre les différentes fractions des classes dominantes, la bourgeoisie culturelle, la bourgeoisie économique, finalement, se retrouve sur cette idée qu'il faut être écolo, mais sans être excessif, sans être dogmatique, sans être radical. Et à mesure que l'on descend dans l'espace social, on voit que l'écologie crée plutôt de la concurrence, du clivage, et donc elle vient fragmenter les milieux sociaux fragilisés, ce qu'on appelle les classes populaires, qui sont déjà fragmentées par d'autres logiques, mais cette écologie dominante vient accentuer ces fragmentations, et donc c'est ce constat que l'écologie vient séparer, diviser, fragiliser ceux et celles qui sont pourtant les plus exposés aux catastrophes environnementales.
Vous utilisez dans votre livre le terme de capitalisme vert. De quoi s'agit-il exactement ?
Le capitalisme vert, c'est l'écologie dominante. C'est l'écologie dominante, c'est-à-dire cette idée qu'on peut résoudre les problèmes environnementaux sans avoir à défaire l'organisation sociale. C'est-à-dire en maintenant l'hégémonie des principes de la rentabilité, de la productivité, de la rapidité, donc les principes cardinaux, en fait, du capitalisme financiarisé et industriel. Et donc, c'est ça, c'est l'idée qu'on peut transformer écologiquement la société sans transformation sociale. Et en fait, c'est cette écologie-là, écologie dominante, qui est donc une écologie qui se déploie en tenant compte des intérêts des classes dominantes, eh bien, c'est elle qui aujourd'hui génère de plus en plus de réactions contre elle. Avec la première a été la première grosse réaction contre cette écologie dominante, ça a été celle des Gilets jaunes en 2018-2019.
Les classes populaires qui se soulèvent et essayent de pouvoir communiquer ou en tout cas aussi parler de leur ressenti de leur côté, parce qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres problèmes que l'on peut voir aussi dans les classes populaires, c'est qu'on a tous envie d'être écolo, mais on n'a pas forcément les moyens, par exemple.
En tout cas, on n'a pas les moyens de se payer cette écologie dominante, qui est une écologie technologique, hein, c'est l'écologie des voitures hybrides, des panneaux solaires sur le toit, et c'est aussi l'écologie de MaPrimeRénov. Donc on n'a pas les moyens, des fois financiers, mais des fois on n'a juste pas le temps de remplir des dossiers de de subventions qui sont fastidieux, qui sont pas simples à comprendre, etc. Donc, en fait, c'est une écologie, cette écologie dominante, elle est pas du tout accessible, faite pour ces classes populaires. Et à l'inverse, elle les met à l'index, elle les stigmatise, elle les monte du doigt. Hein. C'est l'exemple récent des zones à faible émission, et donc le fait que les centres urbains, pour des raisons écologiques, sont de plus en plus inaccessibles ou de moins en moins accessibles aux classes populaires. Donc, c'est une écologie qui est excluante aussi pour les classes populaires, qui, par ailleurs, il faut garder en tête, ont les modes de vie les moins dangereux pour la planète.
Ce fossé justement entre ces deux modes d'écologie, on peut dire, qui s'affrontent. Quel changement on peut apporter pour justement réduire cette fracture ?
Ce qui me paraît important, c'est d'essayer de créer une conscience environnementale des classes dominées. C'est-à-dire que là où l'écologie, où les enjeux écologiques aujourd'hui créent de la tension et du clivage au sein des classes dominées, ça devrait être l'inverse. Et donc pour que l'écologie devienne un levain de l'intégration, un facteur d'intégration des classes populaires, il faut absolument remettre l'accent sur les inégalités face aux questions environnementales. Rappeler que c'est bien les classes populaires qui vont le plus morfler et le plus souffrir alors qu'elles polluent moins, et ça il faut le marteler, mais il faut aussi comprendre que du coup que derrière c'est des logiques matérielles, que ça renvoie à des inégalités matérielles générales, et que il devrait y avoir une forme de solidarité écologique de classe au sein des classes populaires. Ça doit se travailler politiquement. Et cette idée des inégalités environnementales, qui sont aussi le produit de rapports de classe, en fait, elle reste très marginale dans les discours écologiques, dans la pensée écologique dominante mainstream, et encore plus dans le capitalisme vert. Et il faut ensuite avoir bien en tête que pour vivre de manière écologique, il faut transformer la société. C'est-à-dire que tant que le monde social continuera à fonctionner comme il fonctionne, on pourra faire tous les efforts qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc il faut politiquement s'organiser collectivement pour reprendre le pouvoir et se donner les moyens de transformer les règles du jeu social pour les rendre beaucoup plus compatibles avec la crise, les enjeux écologiques actuels.
Une sorte de justice et même de d'éducation environnementale, donc à poursuivre, en tout cas à encourager, c'est ce que l'on peut lire dans les pages de ce livre Écolo mais pas trop, cet essai signé par vous, Jean-Baptiste Combi. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.
Avec plaisir, bonne journée.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts.
Un entretien de Bastien Mathieu pour Graffiti Radio à La Roche-sur-Yon.